Le Seigneur vous bénisse tous. Alors, le Seigneur vous aime. Vous savez, on a un ami qui s'appelle Olivier. Et je vous avais dit, il y a 2 mois, il a reçu une greffe de foie. Et voilà. Tout allait bien. Et puis, hier matin, son âme est partie. Et comme disait Thaddée tout à l'heure, aujourd'hui c'est le moment, demain tu sais pas. C'était pas prévu qu'il s'en aille. Hein. Tout allait mieux, son foie marchait bien. Et puis, pouit, il est parti. Le sujet qui était mis sur mon cœur ce matin, je pense correspond tout à fait à ce qui vient d'arriver. Ça s'appelle « Chacun de nous rendra compte pour lui-même ». Chacun de nous rendra compte pour lui-même. Je vous lis le verset complet, c'est dans Romains 14, versets 11 à 12. Il est écrit « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, toute langue donnera gloire à Dieu, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Alors, ce texte-là, il faut bien sûr le replacer dans le contexte, et il arrive après une recommandation de Paul, à savoir que nous n'avons pas à nous juger les uns les autres sur ce que nous faisons, et sur ce que nous croyons par rapport à des choses secondaires comme la nourriture ou la pratique des fêtes. Ou par exemple le voile. Certaines femmes mettent un voile, d'autres non. Bon, ben on ne va pas se disputer pour ça. Hein? C'est comme ça, chacun ses convictions. Et Paul ajoute, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Et puis, il complète encore en le disant, et je rajoute un mot, franchement, pour un aliment, ne détruit pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. C'est pas bon d'avoir une pierre d'achoppement, d'être une pierre d'achoppement. Et l'apôtre nous dit que chacun devra rendre compte à la fin de sa vie, bien sûr, c'est à la fin de sa vie qu'on rend compte, de la manière avec laquelle nous aurons vécu sur cette terre. Et cette chose-là doit nous inviter, et je pense que ce qui est arrivé juste avant, nous invite à réfléchir sur notre vie. À chacun. J'aime beaucoup, moi, réfléchir. On promène souvent et puis on ne parle pas. On réfléchit. Et on réfléchit, en fait, on médite. Et on se dit, mais finalement, notre vie, si elle devait être pesée maintenant, comment serait-elle devant Dieu? On se rappelle hein, du roi de Babylone, hein, ta vie était trouvée légère. Jésus, voyez, avait déjà évoqué cette question quand il parlait de la parabole des talents, quand il parlait de la parabole des mines, nous connaissons bien. Et la question, finalement, c'est quelle trace notre passage sur terre va-t-il laisser? Qu'est-ce qui va rester? Tout ce qui n'a pas été de Dieu va être brûlé, va être détruit. Mais qu'est-ce qui va rester d'éternel? C'est ça la question. Alors, rendre compte à Dieu, ça implique qu'on nous a confié une tâche sur cette terre. Parce que vous savez, si le Seigneur avait voulu, au moment de notre conversion, il nous aurait pris tout de suite. Et s'il nous a laissés sur terre, eh bien c'est parce qu'on a quelque chose à y faire. Donc il nous confie des tâches à chacun. Et à la fin, il faut rendre compte. Il nous donne des outils, il nous donne des instruments, il nous donne des dons, etc. et à la fin, on doit rendre compte. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Et là, on est seul devant Dieu, chacun. Et on ne va pas rendre compte de ce que le voisin a fait. Prendre ou accepter une responsabilité, parce que c'est ça, c'est une question de responsabilité que Dieu nous confie sur cette terre. C'est une sorte de contrat ou de charge dont les termes doivent être connus et acceptés, parce que le Seigneur est clair. Et au terme du contrat, il y a une appréciation. Et c'est ce qu'on appelle un jugement qui ne peut être donné que par une autorité supérieure, c'est-à-dire Dieu. Et on voit par exemple dans Luc, au chapitre 16, versets 10 et 11, Jésus qui dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ?» Alors, je me suis posé la question, mais finalement, être responsable, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça recouvre? Alors, j'ai mis quelques idées. D'abord, je pense qu'il faut connaître le but de la responsabilité que Dieu nous confie. Le poids d'une responsabilité est étroitement lié à son but. Pourquoi Dieu nous confie-t-il telle ou telle tâche? Qu'est-ce qu'il veut faire? C'est quoi son but? Et l'essentiel dans l'analyse, c'est d'essayer de connaître ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Il y a une gradation de charge, vous le savez bien, dans l'Église. Ça va du simple nettoyage, on prend toujours cet exemple-là, jusqu'aux charges les plus hautes dans le domaine spirituel. Mais toutes ces charges-là, et on vient de le vivre là, doivent être vécues en parfaite harmonie. Dieu sait, il le sait, si nous sommes mûrs, chacun, séparément, pour porter telle ou telle charge. Et à ce moment-là, il le fait connaître d'une manière ou d'une autre, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et il le fait connaître. C'est lui qui est le chef de toute autorité. Alors, la deuxième question que je me pose et que je vous pose, de quoi est-ce que je me sens, de quoi est-ce que tu te sens responsable? Qu'est-ce que le Seigneur t'a confié? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Je vais vous dire, il y a une chose au moins que tout le monde a en responsabilité, tous ceux qui ont été baptisés, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il y aurait beaucoup à dire, ce n'est pas le sujet. La bonne conscience, qu'est-ce que c'est que la conscience, etc. Mais l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu, c'est une première responsabilité. Et je dirais que toutes les autres dépendent de celle-là. Et Dieu regarde. Il regarde nos vies. Et en fonction de la façon avec laquelle nous vivons cette chose-là, il pourra nous faire mûrir, nous faire grandir et nous donner d'autres charges. Sommes-nous fidèles à cela? Sinon, il ne faut pas s'attendre à ce que Dieu nous confie une autre charge. Et si oui, marchons avec persévérance. Il y a encore une autre chose que je voudrais dire concernant la responsabilité. Toujours sous ce chapeau, qu'est-ce que c'est qu'être responsable? Eh bien, être responsable, c'est être discipliné. Par exemple, un homme ou une femme qui pêche souvent et qui se repent, parce que ça existe, Les gens qui tous les jours tombent dans le péché et se repentent. Je te demande pardon, Seigneur, j'ai pas pu résister. D'accord, il est pardonné. Mais c'est un indiscipliné. C'est un indiscipliné. Et dans certaines tâches que Dieu confie, il y a des fautes qui entraînent des suites irréparables. Certaines tâches ne peuvent pas être confiées avant le temps de Dieu et avant les expériences que Dieu va envoyer pour faire mûrir. Par exemple, un père indiscipliné, c'est un petit peu ce que Matthäus disait ce matin, des parents indisciplinés, des parents qui font n'importe quoi, comment voulez-vous après qu'ils disciplinent leurs propres enfants? C'est pas possible. Et à un moment donné, il est trop tard. Il est trop tard parce qu'ils ont grandi, etc. et qu'ils ont été écœurés. Alors, ça sous-entend que nous pouvons, par indiscipline, par inconscience, rater complètement ce que Dieu a prévu pour nous. C'est vrai pour l'Église et pour nous-mêmes. Il y a des églises qui ratent le coche. Dieu nous prépare aux responsabilités. Il contrôle à chacun notre maturité par des expériences. Et nous vivons quelquefois des épreuves. On appelle ça des épreuves. Moi, je dis que ce sont des tests. Le Seigneur nous fait passer des tests, des examens, sans prévenir, pour voir à quel niveau de maturité on en est arrivé. Comment on réagit. Et quand on réagit mal, soyez assurés que le test, vous le repasserez plus tard, sous une autre forme. Mais le Seigneur testera quand même pour savoir si vous êtes capable de faire ceci ou cela. Et quand on veut prendre une charge trop vite, ou quand on ne veut pas prendre une charge, donc par impatience ou par trop de prudence, on peut ne pas être prêt pour les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et ça, c'est triste. Et il faudra en être conscient et il faudra aussi en rendre compte. Dieu est sérieux. Et il nous demande, pour prendre des responsabilités, d'être consacrés. Être chrétien, ça veut dire être conscient du sacré de nos vies. Nos vies sont sacrées. Nous sommes des saints, c'est-à-dire des gens mis à part. Nous ne sommes pas des communs du mortel ordinaire, c'est pas vrai. Nous sommes devenus des gens à part, avec une mission sur cette terre. Et la motivation par excellence qui doit nous faire vivre sur cette terre, c'est l'amour. Et Paul disait, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Rien. Même si je donne ma vie. Vous vous rendez compte? Même si je donne ma vie, si ça n'est pas par amour, je ne suis rien. Elle est perdue. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Alors, pour prendre une responsabilité, quelle qu'elle soit dans l'Église, eh bien, il faut avoir une pratique éprouvée. Moi, j'ai vu des églises où on a nommé comme anciens des jeunes. J'ai dit, mais c'est une folie. Ils n'ont pas la pratique. Ils n'ont pas la maturité. Pourquoi fait-on ça? Alors, un responsable, nous sommes tous responsables de quelque chose. Hein. Je ne parle pas seulement des ministères, des anciens, etc. Non, 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 de tout le monde. On doit travailler pour le Seigneur par amour, pas d'autre motif, pour la gloire de Dieu. Avec prudence, c'est l'intelligence du cœur. Vous savez que quand on a de l'amour, on a de l'intelligence dans le cœur pour ne pas blesser, pour faire grandir, etc. Pour avoir, il faut aussi du discernement, c'est-à-dire d'apprendre à apprécier la valeur que Dieu donne aux faits et aux personnes. Faut-il se taire? Faut-il parler? Faut-il agir? Faut-il attendre? Et tout ça nécessite une communion profonde avec le Seigneur. Passer du temps avec lui. Et nous avons chacun notre façon de faire. Il faut aussi avoir la capacité de résister au découragement parce que c'est très, quelquefois difficile. Et comment on résiste au découragement? En se rappelant que c'est Dieu qui a mis la première pierre à notre travail, il nous en a montré l'objectif, le but. Eh bien, si tu regardes ce but et si tu te rappelles que c'est lui qui a mis la première pierre, alors tu vas tenir. Savoir qu'il n'y a pas de réponse à tout, mais chercher le visage du Seigneur, la pensée de Dieu. Être à son poste et non à celui d'un autre. Et ça, c'est valable pour tout. Moi, je me souviens que à un moment donné, dans l'école où j'étais, il y avait une fuite au toit. Et puis, l'été, on était deux qui faisaient, on faisait la permanence. Donc, on était là, il faisait beau. Et on s'est dit, ben, ce serait peut-être le moment d'aller mettre une rustine sur le toit. Et on a fait ça. Et on a cru bien faire. Et après, on s'est fait attraper parce qu'on nous a dit, c'était pas de votre responsabilité. Chacun a son poste. La vie nous apprend les choses. On ne peut pas prendre la responsabilité d'un autre. Dieu lui a confié. Une oreille ne peut pas remplacer une narine. Je suis désolé. Alors, il faut confier son pas au maître et être zélé. Maintenant, je vais vous parler de qu'est-ce que c'est que d'être irresponsable. Parce qu'après tout, c'est bon de le savoir. Un irresponsable, c'est quelqu'un qui n'est pas conscient. D'une part, il ne sait pas apprécier les vraies valeurs. Il prend les choses à la légère. Et d'autre part, sans le vouloir, inconsciemment, il s'associe au destructeur. Et vous connaissez cette parole d'Osée qui dit, dans Osée 4:6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Qu'est-ce que c'est que connaître ? Connaître la parole de Dieu, c'est la pénétrer en profondeur et la faire sienne. Dans le mot « connaître », il y a cette pénétration, au même sens que dans l'union d'un homme et d'une femme. C'est le même mot. Adam connut Ève et elle enfanta. Donc, c'est une pénétration. Donc il faut pénétrer la parole de Dieu et la comprendre. Pourquoi dans les églises, la connaissance, c'est-à-dire la pénétration de la parole de Dieu, manque-t-elle? Question. Dans beaucoup d'églises, c'est à cause du peu d'intérêt qu'on en a, à cause du sommeil, à cause du péché, à cause de manque de conviction, à cause de manque de courage d'aller l'étudier, à cause d'immaturité, à cause de l'amusement. Il y a un prédicateur du 19e siècle qui disait, il était en avance sur son temps quand il disait ça, il disait maintenant, il faut enseigner les brebis et amuser les boucs. Et oui, il était en avance sur son temps. Il y en a beaucoup qui s'amusent et qui n'étudient plus la parole, qui ne sondent plus la parole. Alors, je vais vous donner quelques exemples de gens qui, dans leur vie, pourtant, certains étaient de grands serviteurs de Dieu, ont été à un moment donné de leur vie irresponsables. Le premier, c'est Adam. Bien sûr, c'est Ève qui a été tentée en premier. Mais pourquoi Adam n'a-t-il rien dit? C'est lui qui avait entendu la parole de Dieu, pas elle. Pourquoi n'a-t-il rien dit? Il était donc responsable et son silence et sa passivité ont eu des conséquences incalculables. Je tire une petite conclusion et ce sera toujours la même. Je vais vous donner plusieurs cas. Sa faute a été de ne pas tenir compte de la parole de Dieu. Manque de connaissance, manque de pénétration et de foi dans la parole de Dieu. Les fautes de Saül, le roi Saül, qui devait attendre que Samuel revienne. Et à un moment donné, il était tellement pressé de toutes parts qu'il a cédé et qu'il a fait un peu n'importe quoi. Et alors, le texte nous dit la désobéissance est aussi coupable que la divination. La conséquence a été son rejet devant Dieu en tant que roi. Bien sûr, il s'est maintenu roi devant les hommes, mais devant Dieu, il ne l'était plus. Vous vous rendez compte? Sa faute fut de ne pas tenir compte de la parole de Dieu. Lot et sa femme. La femme de Lot est morte par désobéissance. Mais qu'a fait Lot ensuite? Lot, il s'était sauvé avec ses deux filles. Il a eu une attitude passive. Il s'est mis à boire. C'était exactement les péchés qu'on vivait dans Sodome. Il a continué ses péchés. Il s'est pas rendu compte qu'il avait été sauvé de justesse et qu'il fallait arrêter. Eh ben non, il a continué. Et ça a entraîné quoi? Ça a entraîné la naissance de deux hommes qui ont été les ennemis d'Israël. Deux peuples, les Ammonites et les Moabites. Quelle a été la faute de Lot? Ce fut de ne pas tenir compte de la parole de Dieu. Le silence de Judas, Judas le patriarche, tous ses fils sont morts, alors il n'avait pas de descendance. Et normalement, il aurait dû aller vers l'une de ses belles filles pour faire un enfant. Et lui, il ne voulait pas. Et c'est la belle-fille Tamar qui a organisé un stratagème. Elle s'est transformé en prostituée et lui, Judas, est allé voir cette prostituée et il l'a mise enceinte. Et après, elle a dit, mais comment ça se fait que tu es enceinte, Tamar? Qu'est-ce que tu as fait? On va te lyncher. Il était irresponsable. Et c'est Tamar qui a pris le relais pour que la parole de Dieu s'accomplisse. C'est-à-dire que dans la descendance de Judas, il y est Jésus. Quelle a été la faute de Judas? C'est de ne pas tenir compte de la parole de Dieu. Pas sérieusement. Le péché d'Achan. Achan, à la prise de Jéricho, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher de l'or, de l'argent, un beau manteau de chénéar et il a mis ça sous sa tente. Et il a introduit le péché dans le camp d'Israël. Le corps a été infecté. Quelle a été sa faute? De ne pas tenir compte de la parole de Dieu. Abraham qui s'impatiente et qui va vers Agar à la demande de sa femme. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Ben, vous le savez. Naissance d'Ishmaël avec toutes les conséquences qu'on connaît. Quelle a été sa faute? De ne pas tenir compte de la parole de Dieu. Les Lévites inconscients, au moment d'Ézéchiel, on lit: ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires, et ils ne distinguent pas entre ce qui est saint et ce qui est profane. Les lieux saints étaient devenus n'importe quoi. Quelle a été leur faute? C'était de ne pas tenir compte de la parole de Dieu. Et à chaque fois, c'est ça. Mon peuple meurt parce qu'il lui manque la pénétration de la parole de Dieu, la foi dans la parole de Dieu, que les paroles de Dieu vont s'accomplir. Alors, je pourrais multiplier les exemples comme ça, mais vraiment, on peut se rendre compte que quand une responsabilité n'est pas prise parce qu'on n'a pas pris au sérieux la parole de Dieu, il y a des conséquences en cascade. Je pourrais vous parler, cet après-midi je vais le faire, je vais parler de l'iniquité, ce sont des conséquences en cascade. La faute majeure, toujours, c'est de ne pas tenir compte de la parole de Dieu. Si nous nous humilions devant Dieu pour que cette faute soit pardonnée, elle sera pardonnée. Mais il faudra, pour réparer les conséquences, beaucoup de soins, de temps, de prières et de souffrances. C'est pour ça que je dis, nos vies doivent être sérieuses, elles doivent être sacrées. Il est vrai que ce monde est difficile, il est ténébreux, mais je vais vous dire une chose, ces ténèbres-là ne nous empêchent pas d'entendre la parole de Dieu. L'obscurité ne rend pas sourd. Les grands serviteurs de Dieu, comme Charles Finney, commençaient toujours les réunions par une ou deux heures d'enseignement. Croyez-vous qu'actuellement, dans nos régions ici, il y a encore beaucoup d'églises capables d'écouter deux heures d'enseignement? Il n'y en a plus beaucoup. On préfère louer le Seigneur pendant deux heures et écouter après peut-être un enseignement d'une demi-heure. Mais l'inverse, non. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui se produit dans l'église actuellement qui fait que la parole de Dieu passe au second plan. C'est triste, mais je l'ai remarqué à beaucoup d'endroits. Alors, je voudrais vous parler des fonctions responsables dans l'Église. Le monde évolue, vous voyez, les comportements des populations changent, on le voit sous nos yeux tous les jours, mais la parole de Dieu demeure. Comment faire? Comment réagir pour ne pas commettre des fautes aux conséquences incalculables? Bien sûr, Dieu a établi dans l'Église des ministères qui ont chacun leur rôle et leur responsabilité. À ça, il faut ajouter les anciens, les diacres, etc., toute l'organisation de l'Église. Mais ce n'est pas de ça dont je voudrais parler. Je voudrais parler des responsabilités qui transcendent tout ça, c'est-à-dire qui sont communes à tout le monde. La première fonction responsable que nous avons tous, c'est de nous tenir dans l'intimité de Dieu. C'est une responsabilité. Pourquoi ? Parce qu'il faut réfléchir avec Dieu et inventer avec Dieu des solutions aux problèmes qui sont posés. Parce qu'il y a des problèmes nouveaux qui sont posés. Alors, parmi les fonctions importantes, j'en ai sorti trois que je vais vous donner. La première fonction, ça transcende tout, hein, c'est la fonction de juge protecteur. Juge protecteur. Pourquoi je dis ça? Parce que Nous, dans nos pays, on a séparé la justice et le gouvernement. Enfin, on pense l'avoir fait. Mais en Israël, ce n'était pas le cas. Et en Israël, celui qui était juge, il gouvernait également. Et la fonction de juge, c'était surtout une protection des gens qui avaient été des victimes. Chez nous, dans nos pays, malheureusement, le juge protège surtout celui qui a fait le meurtre. Et quant aux victimes, les pauvres, eh ben, se débrouillent. Mais pas du tout dans l'esprit de la Bible. Donc, la fonction de juge protecteur, c'est pas un tribunal, mais par exemple, voyez, au temps d'Ézéchiel, Ézéchiel était un jeune homme qui a vécu en déportation et à un endroit où il n'y avait plus de temple. Alors, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Bah, Ézéchiel, c'est le premier qui a commencé à se dire, bah, il va falloir mettre des lieux de culte. Et c'est comme ça qu'il a dit, ben, quand il y aura 10 juifs à un endroit, on fera une synagogue. Et il a commencé à expliquer comment il fallait vivre en dehors de la terre d'Israël et en dehors du temple. Et c'est ce qui va donner plus tard, au bout de beaucoup d'années, et notamment au 5e siècle après Jésus-Christ, deux Talmuds, et dans ces Talmuds, on explique comment il faut appliquer la loi de Dieu par rapport à telle ou telle situation. C'est-à-dire qu'ils se sont adaptés. Ils s'adaptent en permanence, d'ailleurs, les Juifs. Et de même, les responsables de l'Église doivent étudier et prendre des positions claires par rapport aux problèmes nouveaux que sont posés dans la société. Imaginez qu'arrivent ici deux hommes mariés. C'est légal. Voilà un nouveau problème. Mince. Que faire? Il n'y a pas que ça, hein? Il y a donc le mariage pour tous, il y a le concubinage, il y a le pacs, il y a l'avortement, il y a les mères porteuses, il y a la génétique, il y a la drogue, il y a le travail au noir, etc., etc., etc. Et il y en a plein comme ça. Et il est important, et c'est une fonction de juge protecteur, important de définir ou de redéfinir les bornes avec sagesse et amour. La fonction de juge protecteur, c'est de discerner le bien et le mal. J'ai assisté, moi, à une conférence d'un jésuite, un homme haut placé. Et dans sa conférence, et je vous assure, les gens, ils écoutent. Et dans sa conférence, il disait, le bien et le mal, c'est fini. Maintenant, il y a le bien et le juste. Ça veut dire quoi ça? Le bien et le juste. Ça veut dire tout simplement que dans certaines circonstances, on peut peut-être justifier certains actes. Vous vous rendez compte? Non. Il existe et il existera toujours le bien et le mal. Mais c'est à nous, c'est notre responsabilité de demander à Dieu, mais Seigneur, montre-nous. Parce que ça devient compliqué, Seigneur. Ça devient drôlement compliqué. Il nous invente tellement de choses. Attendez. Le jour où ils vont réussir à faire un enfant cloné. Et voyez les questions qui sont posées. Alors, bon, il y aurait beaucoup à parler là-dessus, mais. La fonction de juge, c'est discerner le bien et le mal, la façon de se conduire et conduire les gens à la liberté. Parce que Jésus porte le poids des fautes et rend la liberté. Et pour ça, il faut beaucoup de discernement et d'amour. Nous ne devons pas oublier que le péché a entraîné le chaos, mais au milieu des ténèbres, Dieu agit toujours. Dieu travaille la nuit. Il ne dort pas. Au milieu des ténèbres. Rappelez-vous, quand la terre était informe et vide, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et les eaux représentent aussi les peuples. L'Esprit de Dieu plane au-dessus des peuples. L'Église a pour mission, n'a pas pour mission de transformer le monde, c'est pas vrai. Celui qui prêcherait ça, ben il a du boulot. Non. Mais d'apporter une lumière. Et des paroles de salut. L'Église, c'est l'embryon du royaume. Les prémices. Et comme au temps du Pharaon, quand on disait qu'il y avait de la lumière chez les Juifs, eh bien, il doit y avoir de la lumière chez les chrétiens. Il faut parler au milieu du chaos et non pas y participer. La deuxième fonction importante, c'est la fonction d'enseignement. Parce que je vous disais tout à l'heure, mon peuple meurt parce qu'il n'a pas pénétré la parole. Et l'enseignement consiste à nourrir l'Église. Et ça appelle quelques réflexions. On ne fait pas ça au petit bonheur à la chance, c'est pas vrai. Quand le Seigneur a voulu nourrir toute cette population qui était venue l'écouter, qu'est-ce qu'il a dit dans Luc 9, versets 13 à 16? Il a dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Oh, le Seigneur en a rien. Et le Seigneur dit « Mais faites-les asseoir par rangée de 50. » C'est-à-dire qu'il leur dit « Mais organisez-vous. Vous avez une fonction d'enseignement, organisez-vous. Faites des groupes, faites de ceci, faites de cela. Organisez-vous. » Et puis, deuxième chose, il faut de la prévoyance. Souvenez-vous de Joseph, le patriarche. Il a eu une vision, la vision des vaches maigres et des vaches grasses, vous rappelez? Et qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû, parce qu'il a compris la pensée de Dieu et il en a tenu compte. Pendant 7 ans, il a stocké du grain. Et il n'en a pas manqué pendant les vaches maigres. Moi, ça fait des années que je sens que ça va exploser, parce que vous aussi. Le monde va exploser, on n'en est pas loin. Je ne sais pas comment on sera dans un an. Qui peut le savoir? Vous savez très bien comment ça peut péter. Mais ce que je sais, c'est que si on engrange la parole de Dieu, et si on prépare les chefs de famille, l'Église pourrait même être fermée, il restera les maisons. Et j'ai toujours pensé qu'une grosse bougie, on la souffle, elle est éteinte. Mais plein de bougies, vous ne pouvez pas souffler. Plein de petites bougies. Et il faut préparer l'avenir. Nous devons engranger la parole, c'est-à-dire dans notre mémoire, dans la connaissance, dans l'étude, et préparer des hommes et des femmes pour qu'ils puissent transmettre à leurs enfants. Qui sait si dans quelque temps nous ne serons pas obligés de fonctionner en maison? On n'en sait pas. Mais il faut prévoir l'avenir. Il faut du discernement aussi pour l'enseignement. Apprendre à discerner quand le peuple a faim, qu'est-ce qu'il faut lui donner? Un peuple mal nourri s'endort. Vous savez, quand vous jeûnez, au bout d'un moment, pour peu qu'il fasse un peu chaud, ça y est, hein, vous roupillez. « Le Seigneur fait attention à son peuple hein, quand il dit « Ils n'ont rien à manger, je ne veux pas les renvoyer sans rien. » Le Seigneur a dit ça. Hein. Et moi, il y a un verset qui me parle particulièrement depuis plusieurs années. Je l'ai pris pour moi, ce verset. C'est dans Matthieu 24, versets 45 à 47. « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent ?» que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Donner la nourriture au temps convenable. Mais bien entendu, quand on partage l'enseignement, quand on l'approfondit, quand on veut vraiment pénétrer la parole de Dieu, la prendre au sérieux, alors dès que l'enseignement est partagé, la responsabilité est partagée. Vous savez, beaucoup de gens, après la guerre, disaient, concernant les camps de concentration, je ne savais pas. Si j'avais su, j'aurais fait quelque chose. Bon, il y en a beaucoup qui, hein, mon œil, qui ne savait pas. Mais bon, c'est-à-dire que il pouvait dire, je ne suis pas responsable parce que je ne savais pas. Mais moi, je vous dis, quand on sait et quand on est enseigné, on devient responsable. Et il est dit, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. On exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Nous, le Seigneur nous a confié déjà beaucoup. Hein? Beaucoup. Hein? Vous avez beaucoup de connaissances. Hein? Alors le Seigneur demandera des comptes. Qu'est-ce que tu as fait de toute la connaissance que tu as ? Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Dans l'étude sur l'iniquité que je vais donner tout à l'heure, il y a une iniquité terrible. C'est quand tu as deux parents chrétiens qui n'enseignent pas leurs enfants dans la parole de Dieu. Ça, c'est une des plus grandes iniquités qui existent. Il ne faut pas que chacun d'entre nous, nous ayons sur les épaules de ne pas avoir enseigné nos enfants. Et on ne les enseigne pas qu'avec des discours. On les enseigne par des exemples. Comment te comportes-tu ? Est-ce que ce que tu dis de ta bouche, tu le vis ? Il y a quelqu'un qui a écrit une fois une phrase en disant « Ce que tu vis crie si fort que je n'entends pas ce que tu dis. » Eh oui, c'est un petit peu ce que les jeunes disaient tout à l'heure. Prévoir l'avenir, c'est aussi avoir un travail de sentinelle. La sentinelle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle étudie la parole. Elle voit le monde, comment il est. Et elle dit, attention, attention, les choses arrivent, êtes-vous prêts ? Attention. Et dans le livre d'Ézéchiel, on peut lire dans Ézéchiel 33, verset 6, la sentinelle, si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Il est clair que nous devrons rendre des comptes. Et ceux qui ont la responsabilité de l'Église, il est dit qu'ils veillent sur nos âmes comme devant en rendre compte. Vous vous rendez compte ? L'importance que c'est ? On voit par exemple dans l'Ancien Testament, Jochébeth, épouse du sacrificateur Jéhojaba, qui cache un enfant, Joas, pour lui éviter la mort. Notre rôle, c'est aussi de protéger les enfants et de les instruire pour leur éviter la mort. La troisième fonction, je m'excuse, je suis un peu long, c'est pas grave. La troisième fonction, c'est la fonction de conducteur et d'organisateur. Pour que l'Église puisse pleinement remplir son rôle, se développer et mûrir, eh bien, il y a de nombreux conseils. Il y a bien sûr les ministères. Et je voudrais citer ici le pasteur Michel Renevier, que vous connaissez peut-être pas, mais c'est un homme de Dieu d'une grande qualité, qui a beaucoup souffert, parce que c'est un homme qui pratiquait la délivrance avec son épouse, et il avait du succès, mais un tel succès que Satan l'a attaqué. Et un jour qu'il roulait avec sa voiture, il y avait sa fille derrière, une fille de 10 ou 11 ans, eh bien il y a carrément une moto qui a foncé dedans, de plein fouet. La voiture s'est enflammée, et sa fille est morte, et lui il a été brûlé à son visage, mais il a été plus de 6 mois à l'hôpital, enfin bref. Il est sorti de là, il est défiguré, hein. Mais c'est un homme de Dieu d'une profondeur, il a goûté Dieu. Et il dit, l'apôtre voit, l'évangéliste touche, le prophète entend, le pasteur donne du goût, et le docteur sent. Il sent ce qu'il doit dire. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi inventer une organisation de l'église locale pour ce temps-ci. Et on voit dans la visite de Jéthro que Jéthro a donné des conseils à Moïse. C'est pourtant un étranger. Donc il y a la question du choix des responsables. Il y a la question de l'organisation, de la formation. Et il y a la question de l'écoute de Dieu. Parce que on voit que les petits problèmes étaient réglés par les anciens, ce qui permettait à Moïse de s'isoler avec Dieu et trouver du temps pour trouver quel était le chemin qu'il fallait prendre et ce qu'il fallait faire. Moïse a tout fait selon ce que Dieu disait. Le plan du tabernacle, parce qu'il l'a vu, le vrai tabernacle dans les cieux, etc. etc. Pourquoi ? Parce qu'il a eu du temps pour le faire. Parce qu'il y avait une organisation. Alors, maintenant, il y a la communion d'esprit et de cœur qu'il faut avoir entre tous. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne pas avoir de division parmi vous. Il peut y avoir des différences. Il y a des points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord, parce qu'on pense que c'est plutôt comme ci, l'autre pense que c'est plutôt comme ça, etc. Il faut faire attention à ces choses pour que ça ne devienne pas des occasions de division. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et ce que Nicolas a dit tout à l'heure m'a beaucoup marqué parce que j'arrive au même verset. Il arrive, et il nous est arrivé à nous, de nous séparer de certaines personnes parce qu'il est dit dans les derniers temps et nous y sommes. Vous savez, il y a une chose qui prouve qu'on est dans les derniers temps, c'est Israël, hein. Ça, c'en est une. Dans les derniers temps, il y a des gens qui ont l'apparence, mais qui ne sont pas. Et le Seigneur nous dit, éloigne-toi. Il y a donc des séparations qu'il faut faire. Eh oui, Dieu le dit. Et Jésus a prié pour l'unité des chrétiens. Cette communion, elle est souvent illustrée, je ne vais pas passer sur tous les points que j'ai notés, mais Regardez, Moïse et Aaron, souvent par deux. Moïse et Aaron. Caleb et Josué. Élie et Élisée. Les 70 envoyés que Jésus a envoyés deux par deux. Paul et Barnabas. Paul et Silas. Et toute cette unité qu'il faut trouver et qu'il faut vraiment entretenir. Il est bon de se parler. Il est bon de s'encourager les uns les autres. Quand tu vois quelqu'un dans l'église qui fait quelque chose de bien, ben va lui dire c'est bien. Ça l'encourage. Alors l'unité est bonne pour se soutenir dans les moments difficiles, pour avoir du succès dans les batailles. Quelquefois on se dit, mais le Seigneur, il répond pas. Ah ouais? Est-ce que ce ne serait pas un problème d'unité? Il faut se préparer aux batailles ensemble. Il faut aussi être unis pour améliorer les conditions de vie. Moi, je vois, Olivier vient de mourir. Il laisse une épouse et trois garçons. Comme revenu, elle n'a presque rien. Elle ne s'est même pas payée l'enterrement. Elle a dépensé tout son argent pour aller voir son mari à l'hôpital tous les jours. Parce que pendant longtemps, il était sur Bruxelles. Après, il a été ramené sur Moucron. Voilà. Alors, il faut être unis pour améliorer les conditions de vie. Pour encourager les réformes. Pour faire de grandes œuvres. Pour accroître la puissance de la prière. Là où deux ou trois sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Et pour attirer les hommes à Christ. Vous rappelez le paralytique? C'est pas Jésus qui est allé vers lui, c'est quatre hommes qui l'ont descendu. Alors je vais conclure. Lorsque nous sommes nés de nouveau, le Seigneur tient en réserve pour chacun d'entre nous un chemin particulier. Cependant, ce chemin s'inscrit dans un ensemble avec les autres chrétiens. Parce que nous sommes complémentaires les uns des autres. Une oreille ne sera jamais un pied. Un nez ne sera jamais un œil. C'est une chance. Que serait le corps de Christ si nous étions tous des nombrils? Moi, j'en ai vu beaucoup des nombrils dans le corps de Christ. Des gens qui se prennent pour. Il est de notre responsabilité de découvrir notre chemin. Et dans beaucoup de situations, le Seigneur montre la voie et c'est lui qui pose la première pierre. Mais c'est nous qui allons mettre les suivantes. Par exemple, quand le Seigneur a clairement montré à deux personnes qu'elles sont faites pour devenir un couple chrétien, c'est clair, il a mis la première pierre. Mais seulement maintenant, il reste aux époux à faire en sorte que leur couple soit uni, plein d'amour et de respect, de manière à construire une famille solide. Combien de couples, y compris de couples âgés, de chrétiens, sont partis à la dérive parce qu'ils croyaient que c'était à Dieu à tout faire. En toute chose, c'est notre responsabilité de rester fidèles aux enseignements de Dieu. Approfondir, creuser, pénétrer la parole de Dieu. Lorsque Jésus a demandé à ses disciples de monter dans la barque, ils ont dit « Ok, Jésus », mais ils ne savaient pas que derrière il y avait une tempête. Alors nous aurons des épreuves, ça c'est clair. Mais ça ne doit pas nous effrayer. Ce qui compte, c'est d'être trouvé fidèle. Alors, nous entendrons le Seigneur nous dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Que le Seigneur vous bénisse.